Radio Classique, les spécialistes.
7h39 sur Radio Classique, le trafic de drogue gangrène notre pays. Ces mots, vous le savez, sont du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Un trafic qui, aujourd'hui, touche l'ensemble du territoire français et qui inquiète de plus en plus les autorités. La drogue, une véritable économie parallèle dans l'Hexagone. Bonjour Frédéric Ploquin.
Bonjour.
Spécialiste du grand banditisme et du trafic de drogue, vous avez publié en 2021 aux éditions Albin Michel « Les narcos français brisent l'omerta ». Il y a un chiffre que vous citez dans votre livre et qui a été repris par l'OFAST, l'Office anti-stupéfiant. C'est celui de 240 000 personnes qui vivent en France directement ou indirectement du trafic de drogue.
Ça paraît énorme, effectivement. Simplement, il faut savoir que c'est une économie qui est en plein développement. S'il y a bien un secteur économique qui progresse, qui prend des parts de marché et qui donc attire des candidats, c'est celui-là, c'est cette économie souterraine. J'ai calculé également en parallèle à peu près le poids économique de la drogue, du marché de la drogue en France. Chaque année, c'est environ
4 milliards d'euros.
4 milliards d'euros. Ce qui est intéressant, c'est de prendre un petit peu de recul. Et j'ai vu qu'en 2008, on était à 2 milliards. Donc, vous faites le calcul. Ça veut dire que, en peu de temps, à plus de 10 ans, ce marché a doublé de volume. Donc, quel est l'autre marché sur la place du commerce, on va dire, qui s'est autant développé? Il y en a pas. Donc à partir de là, il faut comprendre que ça attire effectivement toute une frange de la jeunesse, notamment dans les quartiers sensibles où les débouchés sont pas très visibles, on va dire. Et aujourd'hui, ça attire également sur les points de deal. On l'a vu à Marseille, on le voit en région parisienne. Ça attire également une main d'œuvre parfois sans papier, on va dire, des personnes qui débarquent, qui arrivent en France, qui savent pas sur quel commerce s'investir, quoi faire, qui sont sans papier, on va dire, fragilisés économiquement et à tous les niveaux et socialement, et qui sont recrutés plutôt par les cahiers de la drogue, qui trouvent là une main d'œuvre bon marché, on va dire de la chair à canon aussi pour la police et pour les rivaux qui, comme vous l'avez vu sur Marseille, arrosent parfois aveuglément les points de tir.
Mais vous avez parlé de Marseille, Frédéric Ploquin, vous avez parlé de Paris. On voit des règlements de compte à Valence, on en a vu en Moselle, on en voit dans le nord de la France. C'est-à-dire que on a le sentiment qu'aujourd'hui tous les territoires français sont touchés par la drogue et par les trafics.
Ben effectivement, ça c'est l'autre fait marquant de ces 10 dernières années, on va dire, c'est l'expansionnisme flagrant de ces commerçants de la drogue qui sont allés conquérir de nouvelles parts de marché, qui sont allés chercher des consommateurs sur tout le territoire français, qui ont quitté, ça c'est vraiment le grand mouvement de ces dernières années, c'est cela, c'est qu'ils ont quitté les grandes villes où ils avaient leur point d'ancrage traditionnel depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est pas la drogue, c'est pas quelque chose qui est arrivé avec le 20e siècle en France, et qui sont partis à la conquête de zones où ils ont perçu qu'il y avait éventuellement des consommateurs, et là on est allé, ils sont allés vers les villes moyennes, et aujourd'hui même ils se donnent les moyens en inventant, en innovant en permanence, parce que vous n'allez pas forcément avoir des points de deal dans des petits villages, mais ils se sont donné la possibilité d'acheminer tous ces produits jusqu'à des consommateurs potentiels, pourquoi pas en zone rurale d'ailleurs. Plus du tout de la même manière. Hein. Ils se sont réinventés, on va dire. C'est plus, on vous attend plus au pied du mur dans la cité, quadrillé par des guetteurs. C'est plus ça. Ils se sont donné des moyens modernes, on va dire, que ce soit en utilisant les réseaux sociaux, l'acheminement du produit jusqu'à chez vous, comme ça se fait pour les pizzas. Hein. C'est un peu la même chose. Ils se sont fondus. En fait, le grand dynamisme et les grandes capacités de ces commerçants de la drogue, c'est de singer, de mimer l'intégralité des méthodes du capitalisme contemporain et d'aller même peut-être plus loin à chaque fois et d'être plus rapide parce qu'ils ont aucun obstacle, évidemment, ils payent pas d'impôts, pas de patentes, ni quoi que ce soit, ils y vont, quoi.
La coque inonde le territoire et vous dites que c'est une conséquence du Covid et du confinement, c'est-à-dire, Frédéric Ploquin?
Alors, c'est-à-dire que moi, je suis allé effectivement pour ce livre, je suis allé enquêter jusqu'en Colombie, et là-bas, les producteurs que j'ai pu rencontrer de cocaïne, de produits, m'ont raconté qu'ils étaient effectivement à un moment donné, notamment pendant le Covid, du fait du ralentissement considérable des flux aériens, des flux commerciaux, on va dire, dans lesquels s'immiscent les trafiquants, dans lesquels les trafiquants glissent leurs produits. Donc, dès lors qu'il y a eu un ralentissement de ces flux, il y a eu un stockage. À partir de là, ils se sont trouvés avec effectivement de la cocaïne sur les bras qu'il a fallu déstocker. Et pour déstocker, qu'est-ce que font les marchands de n'importe quel commerçant, par exemple de véhicules à la fin de l'année, s'ils ont trop de modèles 2022 à écouler, qu'est-ce qu'ils font?
Ils cassent les prix. Ouais.
Ils baissent les prix. Donc c'est un peu ce qu'ils ont fait. Donc là, ils ont envoyé massivement, quitte à en perdre du produit, parce que la police, les douanes, la gendarmerie font leur métier. Donc ça saisit beaucoup. Mais eux, ils en ont passé énormément. Ils ont ciblé l'Europe. Après le Covid, quand ça s'est desserré, quand le commerce s'est rouvert, ils ont ciblé l'Europe parce que c'est là où il y avait des parts de marché à conquérir. Et à partir de là, effectivement, ils ont inondé le marché. Quand on inonde le marché avec un produit, on va chercher de nouveaux consommateurs. On ne va pas se contenter, du petit bassin de consommation habituel, traditionnel. Et donc, ils sont allés chercher pour la cocaïne. Ils sont allés chercher à convaincre. Ils ont cherché à convaincre des personnes qui jusque-là n'y avaient pas touché que ça pouvait être un produit, plus seulement un produit comme autrefois festif, mais un produit qui, pourquoi pas, peut dépanner quand on a besoin, quand on a des longues journées de travail, quand on est marin pêcheur en mer, agriculteur, boulanger. Ils sont allés chercher cette clientèle-là.
Oui.
Donc à partir de là, ils ont élargi leur base de consommation.
Est-ce que c'est vrai, Frédéric Ploquin, que certains points de deal à Marseille pouvaient rapporter jusqu'à 80 000 euros par jour aux trafiquants?
Alors je l'ai effectivement constaté, disant que tous les points de deal ne rapportent pas cette somme.
Non, je parle de certains, évidemment,
mais
la somme est folle.
Ouais. Voilà. En fait, c'est une question de localisation, de logistique. C'est-à-dire que si vous avez un point de deal, le principe du point de deal qui va rapporter ces sommes-là, c'est d'être facile d'accès. Et donc, si vous avez d'un côté une bretelle de l'autoroute, de l'autre côté une station de métro, pourquoi pas? Ben, c'est ça qui fait que vous attirez. C'est aussi la proposition, la force de votre force d'offre, c'est l'offre. Il faut une offre volumineuse, importante, qui vous permet de baisser les prix. Si vous avez l'offre, si donc vous avez beaucoup de consommateurs, si vous avez par ailleurs un accès facile, vous pouvez un petit peu baisser les prix, vous pouvez faire de la qualité, et là vous arrivez effectivement à ces montants fous, qui vous expliquent d'ailleurs pourquoi ils s'entretuent pour cela. Hein.
Ouais.
Voilà, vous mettez ça en rapport, vous mettez les tueries en rapport avec ces chiffres, vous avez compris. C'est-à-dire, si vous avez un point qui rapporte 80 000, il faut ensuite payer la manœuvre.
Hein. Ouais. Les guetteurs,
il faut payer tout le monde en liquide, etc. Donc vous imaginez. Vous comprenez bien là pourquoi ils vont sortir les Kalachnikovs pour garder ce point de commerce et le défendre face à ceux qui veulent les manger.
Les grands trafiquants, Frédéric Ploquin, ils sont où? Ils sont en Amérique centrale, en Amérique du Sud, ils sont en France, ils sont à Dubaï, ils sont au Maghreb?
Alors ceux qui les gros opérateurs sur le sol français, en général, ils ont compris. D'abord, ils ont compris il y a très longtemps qu'il fallait pas investir leur argent sur le territoire français.
Ouais.
Il y a qu'une petite partie de l'argent qui est investi sur le sol français, dans les petits commerces, les petits magasins, les petites boutiques, ou en payant liquide si possible, les petits fast-food, des choses comme ça. Il y en a une partie, mais ils ont compris il y a longtemps que cet argent, pour échapper aux forces répressives, devait partir à l'étranger. Et maintenant, ce sont eux-mêmes qui se délocalisent. À la fois, il y a deux choses, parce qu'ils sont en guerre, comme je le disais, avec leurs propres concurrents. Donc, il faut échapper à leurs concurrents. Et il faut échapper également, parallèlement, à la police, aux enquêtes de l'OFAS, notamment. Donc, ils mettent de la distance entre eux et le territoire. Et ils sont... Évidemment, s'ils sont d'origine marocaine, algérienne, c'est plus facile pour eux d'être là-bas, de se fondre dans ces pays sans avoir trop de soucis, s'il faut même, pourquoi pas, agresser la patte de quelques policiers, etc. Après, il y a Dubaï qui est effectivement le nouvel nouvel Eldorado, la nouvelle base de repli, qui est pas trop éloignée, où en plus il y a des facilités, d'énormes facilités quand on arrive avec beaucoup d'argent pour investir, notamment dans l'immobilier. Après il y a des d'autres l'Amérique du Sud, il y a une époque où les grands trafics en français étaient basés en Argentine, mais c'était il y a très 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 longtemps, c'était à l'époque de la French Connection.
Ouais, dans les années 70. Ouais.
Voilà, exactement. Là, oui. Mais là, aujourd'hui, non. Ils vont là-bas pour se fournir du produit, pour nouer des relations avec des trafiquants sud-américains, que d'ailleurs, ils rencontrent aussi parfois dans les prisons françaises. C'est là où ça se passe. C'est là où se nouent les bons contacts. Mais donc, voilà, ces frontières permettent d'être un peu à l'abri des balles des concurrents et pourquoi pas de la prison, qui, honnêtement, pour eux, leur fait moins peur que les balles des concurrents.
Merci beaucoup, Frédéric Ploquin. Je rappelle le titre de votre livre consacré aux stupéfiants. Les narcos brisent l'omerta, restaurant, salon de massage, kebab, banque, immobilier, l'argent sale est partout. Et c'est aux éditions Albin Michel. Merci d'avoir été ce matin dans Les Spécialistes. Dans un instant, le journal imprévisible d'Augustin Lefebvre. Eh bien, nous partons ce matin pour l'espace. Il est 7h50 sur Radio Classique.